Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Herner. Donc comme promis, le Brésil, est-ce que c'est vraiment un pays émergé, point d'interrogation? Donc Hervé Théry, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes géographe, professeur invité à l'université de Sao Paulo, grand spécialiste du Brésil. Le Brésil, cas d'espèce, il réunit plusieurs niveaux de développement. Je ne sais pas si vous serez d'accord d'ailleurs, parce que je ne suis pas ni économiste ni géographe, je ne m'en flatte pas forcément. Et c'est une économie performante, avec des secteurs d'excellence remarquables, des exportations viables, des champions dans le domaine agricole, champions mondiaux. Une économie intermédiaire aussi, émergente comme on dit, et puis une économie de pays en voie de développement dans certains domaines. Le Brésil avait bien réagi dans un premier temps à la diffusion mondiale de la crise économique surgie aux États-Unis en 2007. Il est aujourd'hui particulièrement à la peine, une récession et puis évidemment un parfum de scandale à cause du pétrole, on va en parler sans doute, et puis une interrogation sur le sort politique de la présidente, Madame Rousseff. Alors, pays émergé, c'était le titre de votre ouvrage, cher Mancolin, en 2014, Le Brésil, pays émergé.
Oui, j'avais choisi ce titre et je ne le renie pas malgré les difficultés du moment, puisqu'il me semble qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui restent bons. Mais ce que vous avez dit dans votre présentation est exact, mais c'est un des problèmes du Brésil. Un de mes collègues brésiliens, Alfredo Valadão, disait le problème du Brésil, c'est que tout ce qu'on dit sur lui est vrai, même quand c'est contradictoire. Donc c'est un pays moderne et puissant, et c'est un pays attardé. Il y a des aspects, c'est un pays immense, bien sûr, et très complexe, et donc beaucoup de choses sont vraies en même temps. Alors effectivement, la conjoncture a beaucoup changé par rapport à l'an dernier, puisqu'on enchaîne une crise économique, une crise politique et une crise morale pratiquement, qui fait que tout est un peu en attente dans une situation assez mauvaise. Le point de départ, effectivement, la crise de 2008 a peu touché le Brésil dans la mesure où il avait son marché intérieur, ça reste, et il a surfait plusieurs années sur une très forte demande chinoise. Et c'est le fait que la demande chinoise ralentit ce qui lui pose des problèmes économiques pour ces deux produits phares, c'est-à-dire le minerai de fer et le soja, que tous les deux étaient vendus pour plus de la moitié aux Chinois.
Et si mes souvenirs, la Chine importe son soja donc pour nourrir les animaux pour les deux tiers du Brésil et des États-Unis. Et voilà. comme elle achète moins.
Voilà, et comme pour le Brésil, c'est la Chine lui achète la moitié de son soja, les deux ensemble font qu'ils ont des problèmes. Alors, ils avaient déjà des problèmes puisque les Brésiliens, sachant que les Chinois veulent le soja pour faire de la viande de porc et de la viande de poulet, puisque les Chinois se mettent à manger un peu de viande, leur ont toujours proposé de leur envoyer directement de la viande de poulet et de porc, et les Chinois ont toujours dit non, on veut des graines brutes. Donc il y avait déjà un petit bras de fer, et qui maintenant devient encore plus aigu, puisque la demande chinoise ralentit. Donc ça a créé des problèmes dans les comptes extérieurs qui ont retenti sur l'ensemble de l'économie.
Alors il y a la demande chinoise qui faiblit pour des raisons propres à la crise économique mondiale, mais aussi à ses répercussions sur la Chine et aux difficultés chinoises. Est-ce qu'on avait quand même senti venir la crise économique et cette possibilité de récession qui est advenue, je crois, l'été dernier?
Oui, en fait, il y avait
on l'avait senti un peu venir.
On l'a senti, mais l'ex-président Lula avait manifesté qu'il avait un bon sens économique et un moins bon sens géographique quand il avait dit que la crise née aux États-Unis ne traverserait pas l'Atlantique, n'atteindrait pas le Brésil.
Oui, effectivement, pour le continent américain, c'est un peu fâcheux.
Il y avait une légère erreur. Mais sur le plan économique, oui. Il a eu raison longtemps, mais finalement, la crise a rattrapé le Brésil. Et donc, beaucoup de choses sont maintenant remises en question. Alors, les choses sont aggravées par la crise politique et la crise de corruption, puisqu'en fait, le plus atteint, c'est la Petrobras, la grande compagnie pétrolière, où un petit juge de Curitiba a commencé, en tirant sur des fils les uns après les autres, a fait apparaître un énorme scandale. On parle de 10 milliards de reais, c'est-à-dire 2 milliards et demi d'euros, qui implique la plupart des partis politiques et toutes les grandes firmes du bâtiment et des travaux publics brésiliennes dont les présidents sont en prison. Donc les équivalents brésiliens de Bouygues ou d'Eiffel ou ça sont en prison et racontent beaucoup de choses puisqu'ils sont incités par la justice à dire tout ce qu'ils savent en échange de réduction de peine. Donc il n'y a pas de semaine où ils ne sortent pas de nouveaux noms de politique et à très haut niveau.
Bon. Vous me disiez d'ailleurs en préparant l'émission tout à l'heure, c'est un peu la logique qu'appliquent les Italiens aux repentis de la mafia.
Voilà, c'est en fait le juge Moro est allé en Italie, il est allé voir comment avait fonctionné l'opération main propre et il l'a simplement un tout petit peu amélioré dans la mesure où maintenant il est entendu qu'on doit dire tout de suite parce que si il apparaît après coup qu'on avait caché un certain nombre de choses, la réduction de peine tombe. Donc les gens racontent très en détail tout ce qu'ils savent.
Alors est-ce qu'il y a un risque ou une chance selon les uns ou selon les autres que Madame la Présidente Rousseff soit destituée? Alors c'est, à la fois constitutionnellement et politiquement.
Alors constitutionnellement c'est possible puisque ça a été fait en 92 à un de ses prédécesseurs qui a été effectivement victime, qui a été l'objet d'un impeachment, en portugais on garde le mot anglais, d'une destitution. Techniquement c'est possible, il y a des doutes sur les façons de faire, mais pour l'instant c'est une situation très tendue parce que celui qui a ouvert effectivement le processus, le président de la Chambre des députés, est lui-même objet de dénonciation de corruption très forte, donc c'est à savoir qui tombera le premier. Et donc toute la classe politique est tétanisée en attendant de savoir qui va tomber le premier.
Donc est-ce qu'on peut dire, Hervé Théry, que la corruption est une plaie, un fléau atavique?
Oui, ça vient de très loin au Brésil. Je pense que la plupart des grands pays du monde ont connu ça, les États-Unis dans le passé, la France aussi. Simplement, ça a été très longtemps toléré. C'était une chose qui se faisait, on espérait en récupérer quelques miettes. Et donc, il y avait une très grande impunité qui est en train de changer. La classe moyenne qui a nettement progressé dans les dernières années a des valeurs qui sont opposées à cela. Et donc, ça devient de moins en moins acceptable.
Est-ce que, pour vous, la récession, on tire des plans sur la comète, est durable ou pas?
Alors, je pense que
c'est quand même
que
une question essentielle.
Oui, bien sûr.
Ne serait-ce que socialement.
Oui, parce que du coup, heureusement, la croissance démographique a ralenti, ce qui fait qu'il n'est plus aussi vital qu'avant.
200 millions d'habitants, il faut rappeler.
200 millions, et on a une croissance ralentie, ce qui fait qu'il n'y a plus autant besoin qu'avant d'avoir constamment de la croissance pour un bon. Mais c'est quand même nécessaire, puisque le niveau de vie reste quand même en moyenne assez bas. Et pour l'instant, on n'en voit pas très bien comment ça va évoluer à court terme. Et j'ai pas de boule de cristal. Mais sur le fond, je continue à dire que le Brésil a quand même des atouts extraordinaires, avec des ressources naturelles gigantesques. C'est le pays du monde qui a le plus de terres arables disponibles.
Il est béni des dieux, d'ailleurs.
Les Brésiliens disent que Dieu est brésilien, ce qui simplifie la chose. Et donc, il a béni.
S'il reste d'ailleurs à prouver.
Oui, l'existence d'abord et sa nationalité ensuite. Ça fait deux choses à prouver. Des ressources minières gigantesques et inconnues encore en grande partie. On a découvert le gisement de Serra de Carajás de 18 milliards de tonnes de fer en 1967, et il y a sans doute encore d'autres gisements à trouver. Une population jeune, en croissance maîtrisée, aucun problème d'énergie, autosuffisance en pétrole, et énormes ressources maintenant en alcool, en éolien, en solaire. Donc un président, malgré tous ses ennuis, une présidente comme Dilma Rousseff qui peut dire « Mon pays n'a pas de problème démographique, donc pas de problème de retraite avant une bonne vingtaine d'années, pas de problème alimentaire, pas de problème énergétique, un appareil industriel relativement solide », ça permet d'envisager l'avenir à moyen terme avec une certaine tranquillité.
Un pays riche mais pauvre.
Oui, un pays riche qui est dans une mauvaise passe, mais on peut penser qu'il va s'en sortir.
Voilà, écoutez, un grand merci de ces lumières. Je rappelle donc le Brésil, le pays émergé chez Armand Collin en 2014, fort utile pour les amateurs du Brésil. Et puis nous parlerons demain, tout à fait autre chose, de l'Asie du Sud-Est, avec notre invité Jacques Tenier.
Merci beaucoup Thierry Garcin, on se retrouve demain pour d'autres enjeux internationaux.